Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette émission, deux grands classiques, deux auteurs puissants. Ainsi, le poète portugais Fernando Pessoa, à l'honneur d'un grand article dans le magazine Books, notre partenaire, sera le sujet de la chronique de Baptiste Touvré en fin de magazine. L'occasion de rappeler la richesse de sa littérature marquée par la publication d'un chef-d'œuvre, le livre de l'intranquillité, et surtout la singularité de son écriture, incarnée par la centaine de pseudonymes qu'il a utilisés toute sa vie. Mais pour commencer, Shakespeare, avec la romancière américaine Tracy Chevalier, qui avec son roman intitulé « Le Nouveau », traduit aux éditions Phébus, a relevé le défi de transposer au XXe siècle et aux États-Unis l'une des pièces les plus connues du dramaturge britannique Othello. Une histoire d'amour brisée par la jalousie, une histoire de trahison, une histoire universelle qui a inspiré un grand nombre d'artistes, à commencer par Orson Welles.
Oh, beware, my lord, of jealousy.
Look to your wife.
Does thou in conscience think that there be women to abuse their husbands of such gross kind? Wouldst thou do such a deed for all the world?
Why, would not you?
No, by this heavenly light.
I might do it as well in the dark.
A sweet woman.
Her chopper into messes. Cuckold me.
Is he not light of brain?
He is that he is.
Othello.
Hi, Desdemona.
Will you come to bed, my lord?
Voilà, un extrait de la version cinématographique d'Othello, adapté et interprété par Orson Welles dans le rôle principal. Et aujourd'hui, nous parlons avec notre invité d'une autre transposition d'Othello, moderne et littéraire, un roman qui vient d'être traduit en français aux éditions Phébus sous le titre Le Nouveau et dont l'auteur est Tracy Chevalier. Bonjour.
Bonjour.
Depuis le grand succès de votre roman La jeune fille à la perle en 1999, qui s'inspirait d'un célèbre tableau de Vermeer, vous avez publié une dizaine de livres à la fois historiques et contemporains qui se déroulent en Europe ou sur le continent américain. Et aujourd'hui, votre nouveau livre est un peu une passerelle entre tous vos univers, puisqu'à partir d'une pièce britannique du XVIIe siècle, dont le cadre est Venise, vous imaginez un roman qui se déroule en 1974 dans la banlieue de Washington, où vous êtes né, et plus exactement le temps d'une seule journée dans une école primaire, où là vous transposez donc l'intrigue et les personnages d'Othello vécus par des enfants. Comment vous est venue cette idée, Tracy Chevalier ?
Parce que je pense que c'est une histoire de l'autre, de quelqu'un qui est différent de la société. Vous savez, l'histoire de Othello, brièvement, c'est l'histoire d'un homme militaire, un général, qui vient à Venise et il se marie secrètement avec la fille d'un sénateur, Desdemona. Et puis, il a un assistant qui s'appelle Iago, qui devient jaloux de ce mariage. Et Iago se fâche parce que il n'était pas promu. Alors il décide de tourmenter Othello en disant que sa femme, Desdemona, est devenue adultrice.
Elle a commis un adultère. En effet, c'est l'histoire d'une trahison où, soi-disant, Iago, ami d'Othello, en fait, se retourne contre lui et essaye de séparer ces deux personnes qui s'aiment sincèrement.
Oui, et à la fin, Othello tue sa femme. Et pour moi, il s'agit vraiment d'une société vénitienne qui n'aime pas cet étranger qui a le peau d'une couleur différente.
Oui, c'est un mort et donc il a la peau noire.
Probablement d'Afrique du Nord. Et pour moi, c'est une histoire personnelle parce que, premièrement, vous pouvez peut-être, de mon accent, on peut voir et entendre que je suis américaine. Mais j'habite à Londres il y a 30 d'années. Je suis toujours l'autre dans la société. J'ai un passeport britannique, mais vraiment, je suis américaine. Et quand j'étais jeune, j'habitais à Washington, D.C., dans un quartier intégré. C'était assez rare à ce temps-là pour les Noirs et les Blancs habiter dans la même rue. Mais ma famille était là et je suis allée à une école où il y a beaucoup plus d'étudiants noirs que blancs. Alors, j'étais dans une classe de 27 étudiants et il y avait 3 blancs.
Et en effet, Tracy Chevalier, vous avez apporté avec vous, je la décris à nos auditeurs, une photographie qui date de 1972. C'est une année scolaire où vous étiez à l'école de Takona, n'est-ce pas? Et on voit sur cette photo beaucoup d'enfants de couleur noire et en effet, 3 enfants, 3 jeunes filles blanches. Vous êtes où d'ailleurs?
Moi, je suis au centre.
D'accord, vous êtes au centre donc avec des petites lunettes rouges et une jolie robe à carreaux.
Un crise de mode là.
Donc on comprend un peu mieux maintenant avec vos explications pourquoi en effet vous avez fait la transposition de Othello à Washington où vous êtes né, où vous avez grandi dans les années 1970. Mais en revanche, votre roman prend un autre point de vue.
Oui.
Alors, c'est un livre qui d'abord s'ouvre sur l'arrivée du nouveau, comme le titre du roman en français l'indique. Un nouvel élève qui, en cours d'année scolaire, se retrouve donc propulsé dans une école près de Washington. Il s'appelle Osei. Mm-hmm. Mais comme son prénom n'est pas forcément facile pour les Américains, il propose qu'on l'appelle tout simplement O, comme Othello. Il fait la connaissance d'une jeune fille très sympathique, Daniela, qu'on surnomme Dee, donc Dee comme Desdemonde, et n'oublions pas Yann, un garçon un peu fourbe, dont le prénom commence par I comme Iago, et lequel va en effet tout faire le temps de cette journée pour séparer O de Dee. Et Osei est un fils de diplomate, il vient du Ghana. Pourquoi avez-vous choisi ce pays en particulier, Tracy Chevalier?
J'ai voulu un pays africain où je sais qu'il y a beaucoup de gens qui habitent à Washington DC de ce pays. Et il y a aussi le connexion entre Ghana et les États-Unis avec l'esclavage. Ça, c'était Ghana d'où beaucoup d'esclaves sont venus aux États-Unis. Alors, il y a un petit soupçon de l'histoire là. Ça, c'est pourquoi j'ai choisi.
Mais c'est un pays où vous n'êtes jamais allé.
Non, pas encore. Pas encore. J'espère un jour.
Donc, dans votre roman, il est forcément question de racisme,
ouais,
puisque Osei est le seul enfant noir de l'école et qu'on sent qu'il y a une très forte ségrégation entre la communauté noire et la communauté blanche. Je le rappelle, nous sommes en 1974.
Ouais.
Et en même temps, vous, votre expérience montre le contraire. Comment ça s'est passé, vous qui étiez donc petite blanche minoritaire dans une classe noire? C'est à cette époque-là que vous avez senti qu'il pouvait y avoir une tension?
Ouais. Oui. Mais c'était pas très grave pour moi parce que vraiment une fille blanche aux États-Unis est toujours dans la majorité de la société partout. Même à ce moment-là, j'ai appris ça. Par exemple, dans le roman, Osei dit qu'il y a des filles qui veulent toucher ses cheveux parce qu'ils sont étranges. Les cheveux sont étranges pour ces filles. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi, à l'inverse. Quand on a fait une ligne devant la porte pour aller au dehors, on a attendu le cloche. Et en attendant, s'il y avait une fille derrière moi, quelquefois elle va faire comme ça, toucher les cheveux. Elles ont touché mes cheveux, mais moi, je ne touchais pas leurs cheveux.
Pourquoi?
Parce que je connaissais que ça ne marche pas. C'est pas pourquoi, mais c'est un sens dans moi-même que une fille noire peut me toucher, mais je ne touche pas ses cheveux.
Ce roman, selon les règles de la tragédie classique, respecte les trois unités, lieu, temps et action.
Oui.
Et de fait, en une seule journée, rythmée par le temps scolaire, avant les cours, pendant la récréation du matin, le déjeuner à la cantine, la récréation de l'après-midi et après l'école. Ce sont cinq actes,
oui,
de la tragédie.
Comme Shakespeare.
Exactement.
Oui.
Et l'école, peut-être la cour même en particulier, deviennent incroyablement un lieu idéal qui s'associe à une scène de théâtre où on joue un rôle.
Ouais.
Et finalement, tout est extrêmement fluide, où en effet cet espace clos,
ouais,
est comme un théâtre.
Oui, c'est comme un théâtre. Mais vous vous rappelez de l'école
primaire? Oui.
C'était comme ça. Quand on va de l'école à la cour, c'est toujours, il y a toujours un peu de, ou est-ce que quelqu'un va dire quelque chose de moi, ou il y a un peu de danger. Il y a toujours les politiques de la cour. Et moi, j'ai pensé que mettre Othello sur la cour d'une école, c'est comme un monde en microcosme, le monde extérieur, c'est un monde d'enfants. Il n'y a pas beaucoup d'adultes. Il y a des professeurs, mais les professeurs sont très racistes. C'est un racisme ordinaire. Et les enfants commencent à imiter un peu.
Et il y a aussi des enjeux d'adultes. L'amour, la violence, la jalousie, et tout est incroyablement naturel.
Ouais. Bon, merci.
Non, mais je veux dire, oui, c'est impressionnant comme constatation.
Oui, oui. Et j'ai décidé, il faut que l'action se déroule sur un jour, une journée, parce que c'est plus dramatique comme ça. C'est comme un peu comme Shakespeare, ça devient de plus en plus difficile. Et si ça s'est déroulé pendant une semaine ou un mois, il n'y a pas de... C'est un peu trop long. Alors, avec un jour, il y a beaucoup de drames. Mais vous savez, c'est pas totalement lourd sur le roman. Il y a aussi beaucoup de détails des années 70. Avec la musique de Jackson 5, Roberta Flack, tout ça, Elton John. Je me suis rappelé de ce que j'ai mangé aux cantines, à l'école, et le télévision, ce qu'on a porté, des pantalons avec des pattes d'éléphant, et les couleurs de brun et orange et jaune qu'on a porté pendant ce temps-là. Et c'était drôle pour moi, comme nostalgie.
C'est presque votre roman le plus autobiographique, alors.
Oui, oui, probablement.
Et le plus personnel.
Oui. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on.
Nous sommes donc en compagnie de la romancière d'origine américaine et aujourd'hui qui vit en Grande-Bretagne, Tracy Chevalier, à l'occasion donc de la traduction en français de ce nouveau livre intitulé Le Nouveau, sous-titré Othello revisité. Et en effet, comme on le dit depuis le début de cet entretien, il s'agit de cette transposition moderne de la pièce de Shakespeare dans la banlieue de Washington, où vous êtes né, où vous avez grandi. Est-ce qu'en même temps, vous avez eu la tentation peut-être de choisir la Grande-Bretagne pour savoir si, selon vous, la question du racisme et du harcèlement était différente?
Non, non. C'est
en Angleterre, oui. Ou aux États-Unis?
Chaque pays, c'est son histoire unique. Alors, c'est toujours un peu différent. Par exemple, aux États-Unis, les Noirs américains sont des descendants des esclaves. En Angleterre, ils sont venus pendant le Windrush de 1948. Et on est venu en Angleterre volontairement, même s'il y a le racisme en Angleterre. Et oui, il y en a, mais c'est un peu différent. Et aussi en France, bien sûr, il y a des problèmes de racisme différents encore. Il y a le colonialisme de la France en Afrique du Nord. Et tout ça avec les pieds noirs et l'indépendance d'Algérie, etc., etc. Et ça, c'est un problème assez différent. Mais le racisme est universel.
C'est vrai. La grande sœur d'Ozéi, qui, elle, a été scolarisée à New York, où elle est restée, et qui est devenue militante et sans doute activiste avec ce « Black is beautiful ». Et je me demandais, 45 ans plus tard, où est-ce qu'on en est de ce combat, selon vous ?
Ah, je pense qu'il y a une régression. Il y a des choses qui ont changé. Par exemple, dans le roman, les professeurs sont si racistes, mais ils disent des choses que un professeur n'oserait point dire maintenant. Et ça, c'est meilleur. Mais il y a beaucoup de violence contre les Noirs américains. Il y a beaucoup des polices qui tuent des Noirs toujours. Il y a maintenant l'organisation de Black Lives Matter pour faire des manifestations contre cette violence. On a un président qui est raciste. Alors il y a toujours beaucoup de problèmes, mais on connaît maintenant. En anglais, on dit « on est woke ».« I'm woke ». Ça veut dire on peut voir, on peut essayer de changer.
On a la conscience, oui.
On a la conscience, c'est ça.
On en est conscient. C'est intéressant, Tracy Chevalier. Donc, vous vivez depuis plus de 30 ans en Grande-Bretagne et vous dites « on a un président, Trump ». Donc, vous vous sentez toujours profondément américaine.
Oui, 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 vraiment.
Et quels sont vos liens avec ce pays aujourd'hui?
Oh là là. Les problèmes, c'est même pas simplement le racisme, c'est toutes sortes de choses. Et pour moi, j'ai pensé il y a quelques années, peut-être il faut rentrer aux États-Unis pour habiter peut-être une année, deux années, quelque chose comme ça. Et mon mari est anglais, maintenant on dit non, non, pas du tout, pas pendant que Trump est président. Il y a trop de difficultés en anglais. I don't recognize my own country.
Vous ne reconnaissez pas votre propre pays.
Oui.
Et comment est-ce que vous allez faire aussi? Comment est-ce que vous préparez avec le Brexit?
Bonne question. Tout le monde se demande et personne ne sait. C'est une tragédie. Et moi, je pense qu'il y aura un retard parce que on n'est pas prêt. Je voudrais qu'il y aura un second référendum. Mais il y a d'autres qui disent mais s'il y en a et si on vote à rester en Europe, il y aura une réponse très violente de l'extrême droite.
L'extrême droite.
Oui.
Vous pensez que ça va avoir un impact sur votre quotidien, sur votre vie d'écrivain?
Moi, je ne sais pas encore comment ça va m'affecter personnellement. On va voir.
Et vous imaginez quitter la Grande-Bretagne?
On ne sait pas. Où? Et où est-ce qu'on a? Est-ce qu'il faut rester là ou aller aux États-Unis? Mon mari dit Portugal ou Canada.
Et pourquoi pas la France? Vous vivez en France, vous parlez français.
Oui.
Un de vos personnages utilise beaucoup d'expressions
françaises.
Ah oui, mais
vous avez des problèmes ici aussi avec les gilets jaunes et tout ça. Il y a beaucoup d'inquiétudes ici en France. Je le sens tout le temps. Et alors, je ne sais pas où on peut rester tranquille.
Personne ne sait.
Non, personne ne sait.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Tracy Chevalier. Je rappelle donc le titre de ce livre intitulé « Le Nouveau », traduit de l'anglais par David Fauquenberg et publié aux éditions Phébus.
Littérature sans frontières, en partenariat avec le magazine Books.
Bonjour Baptiste Touvray.
Bonjour.
Nous faisons avec vous le portrait d'un poète exceptionnel, Fernando Pessoa, à l'occasion aussi d'un article publié dans le nouveau numéro du magazine Books, le numéro du mois de mars, avec en couverture, 50 ans après De Gaulle, un dossier consacré aux grands séducteurs et prophètes, comme le dit le sous-titre Charles De Gaulle. Mais nous, évidemment, nous parlons de littérature et de Fernando Pessoa, très grand auteur portugais, connu pour un roman, Le Livre de l'Intranquillité, mais qui a aussi eu une vie littéraire et une vie personnelle tout à fait hors du commun. Contrairement à ce qu'il déclarait lui-même dans un poème, il disait « Si après ma mort vous voulez écrire ma biographie, rien de plus simple, elle n'a que deux dates, celle de ma venue au monde et celle de ma mort. » Et en effet, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est ce que nous rappelle Michel André qui écrit donc cet article à l'occasion aussi de la publication d'un essai consacré à Fernando Pessoa, traduit de cette façon « Comme s'il ne foulait pas le sol, 13 essais sur les vies de Fernando Pessoa, les vies, car oui, il en a eu de bien nombreuses. »
Oui, alors, c'est un des auteurs les plus mystérieux du XXe siècle, Pessoa. Il est mort jeune, à 47 ans, on ne sait pas exactement de quoi. Certains disent d'une cirrhose du foie, parce qu'il buvait effectivement beaucoup, il fumait aussi beaucoup. Et il a eu le bonheur ou le malheur d'avoir un ami qui, tout de suite après sa mort, s'est chargé d'être son biographe. Et un peu comme Max Brod avec Kafka, il a fait de Pessoa une espèce de figure mythique de poète maudit, alcoolique, donc homosexuel refoulé, qui aurait eu des rapports très solitaires, très distants avec sa famille, etc., etc. Et ce que nous apprend cet article, c'est que ce n'est pas le cas, qu'en réalité, Pessoa était quelqu'un qui était très intégré dans son temps, qu'il s'intéressait énormément à l'actualité, par exemple, à la politique aussi, qu'il n'était pas extrait du monde et qu'il avait des très bons rapports avec sa famille.
Pessoa était en effet un homme qui s'intéressait beaucoup au monde contemporain, ce monde qui est à la transition du 19e siècle et du 20e siècle, puisque en effet il est décédé à 47 ans, vous le rappeliez Baptiste, en 1935. Et en même temps, il s'est créé un autre monde, un monde littéraire, où là il avait principalement trois hétéronymes.
En fait, de son vivant, il a publié qu'un texte. Et ça aussi, ça a participé de sa légende. Après sa mort, on a découvert une malle aux merveilles, avec des dizaines de milliers de documents, dont ce fameux livre de l'intranquillité, qui est une espèce de... C'est un ouvrage inclassable, c'est des réflexions psychologiques, philosophiques, un journal. Et au sein même de ce journal, il emploie plusieurs pseudonymes, dont le principal est Bernardo Soares. Dans d'autres ouvrages, il va s'appeler Alberto Cairo, Ricardo Reis ou Alvaro de Campos. On a tenté, plusieurs spécialistes de Pessoa ont tenté de chiffrer le nombre de ces pseudonymes et on arrive à entre 72 et 207. Et le chiffre le plus probable, c'est 136. C'est énorme. On s'est demandé, évidemment, pourquoi utiliser comme ça des pseudonymes? Et c'était pas simplement pour se cacher, ou c'était pas simplement une facétie littéraire. Il avait besoin d'être quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, ces pseudonymes ont des personnalités très distinctes et très caractéristiques. Et c'était une façon pour lui de pouvoir s'exprimer à travers plusieurs voix et, nous dit l'article, de compenser le sentiment d'inexistence qu'il habitait et qu'il a exprimé dans un poème très célèbre où il dit « Je ne suis rien, je ne serai jamais rien, je ne peux vouloir être rien, à part ça, je porte tous les rêves du monde ».
Et ce qui est encore très intéressant en ce qui le concerne, c'est qu'il affirmait croire à l'existence de mondes supérieurs aux nôtres et d'habitants de ces mondes. Qu'est-ce qu'il faut entendre exactement par là, Baptiste ?
En fait, c'est très difficile de savoir ce qu'il pensait exactement. On sait qu'il se passionnait pour l'astrologie, mais on ne sait pas s'il y croyait vraiment. On reste dans le flou parce que l'un de ses pseudonymes, justement, explique son mépris physique pour les sociétés secrètes et les sciences occultes. Mais lui, par ailleurs, semblait, Pessoa, s'intéresser énormément à la théosophie, à l'astrologie, donc à la Kabbale, et à la franc-maçonnerie, à l'ordre de la Rose-Croix, toutes ces sociétés précisément qui sont occultes. Et donc, l'un des spécialistes de Pessoa, l'Américain Zenith, pense que son intérêt pour l'astrologie était avant tout littéraire.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a consacré toute sa vie à la littérature. Et aujourd'hui, il est donc devenu ce grand écrivain portugais, légende lisboète, alors que paradoxalement, Lisbonne n'est pas forcément au cœur de ses écrits.
Oui, il y a énormément de malentendus à propos de Lisbonne et Pessoa. On pense par exemple qu'il a vécu, qu'il habitait dans le centre du centre de Lisbonne, le centre commercial que les touristes connaissent bien. Et effectivement, il y passait beaucoup de temps, mais il n'y a jamais habité. Et la Lisbonne qui transparaît dans ses écrits n'est absolument pas la Lisbonne réelle. Par exemple, il dit qu'il y pleut beaucoup. Or, on sait que Lisbonne est, je crois que c'est la ville, c'est la grande capitale en tout cas, la plus ensoleillée d'Europe. Donc c'est faux. Et l'article compare ça au Paris de Proust, qui est aussi un Paris reconstitué par l'imaginaire et qui est perçu à chaque moment à travers le prisme d'une subjectivité très particulière.
Voilà, donc cet article consacré à Fernando Pessoa à l'occasion de la publication en portugais de cet essai qui n'a pas encore été traduit en français. 16 essais sur les vies de Fernando Pessoa, un article signé de Michel André qu'on peut retrouver donc dans le nouveau numéro de magazine Books et qui nous permet de découvrir cette œuvre et cette personnalité hors norme de cet homme qui disait « Je ne suis personne, absolument personne » et ce n'est pas tout à fait vrai. Merci beaucoup Baptiste.
Merci à vous.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.